Alors, frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre Bible dans la deuxième lettre que l'apôtre Jean a écrite, la deuxième épître de Jean. Une épître où le mot-clé, c'est vérité. La vérité. Et c'est Jean qui, dans tout le Nouveau Testament, emploie le plus souvent le mot vérité. Et ce matin, nous allons donc voir au travers de cette lettre que le Seigneur nous demande d'être la maison de la vérité. Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans nos foyers. Voilà une lettre qui est écrite à Kyria, une dame chrétienne, et à ses enfants. Alors certains ont pensé que c'était une manière de s'adresser à une église qu'il appelait d'une femme, mais tout simplement on va le prendre comme c'est écrit en disant non, Jean, peut-être écrit-il à toute l'église, mais peut-être écrit-il, comme ça a l'air d'être le cas, à une femme chrétienne, peut-être veuve, qui fait partie de l'Église et qui est, on va dire, une des grandes familles de l'Église. Les Églises sont composées de différentes familles et on sait qu'à l'époque, même lorsqu'on se marie, souvent on continue de vivre sous le toit de ses parents, jusqu'à ce que finalement la génération la plus âgée meure et laisse place à la génération suivante. Et voilà que chez Kyria habite et vive toute une famille et elle donne, je dirais, la ligne directrice, la vision à sa famille. Et l'apôtre Jean va lui écrire à propos de l'amour et de la vérité. Pourquoi ? Parce que il va la mettre en garde à propos d'une hospitalité peut-être malvenue. Voilà une femme qui est dans la compassion, dans l'accueil, dans l'amour chrétien, et c'est très bien. Amen. Mais peut-être qu'elle ouvre sa porte à des séducteurs et à des personnes qui arrivent en disant « Mais moi, je suis un chrétien, moi, je viens au nom de Jésus-Christ, je suis un prédicateur itinérant, et voilà, et j'aimerais être heureux si vous pouviez m'héberger. » Et voilà que elle donnait l'hospitalité peut-être pour un mois, peut-être pour 3 mois, peut-être pour 6 mois, à des personnes qui, en réalité, ne travaillaient pas pour Jésus-Christ, mais travaillaient contre Jésus-Christ, en prêchant des fausses doctrines, en disant des choses qui sont contre la vérité. Alors ce matin, on va avoir ce mot « vérité » placé devant nos yeux. Et déjà, Pilate disait à Jésus « Ouais, ben, qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité, mon brave monsieur ? Ça existe, la vérité ? La vérité, c'est relatif. Chacun a sa vérité. » Vous savez, la vérité, où est-ce qu'on la trouve ? Toi, tu dis qu'elle est là, toi, tu dis qu'elle est là, lui, il dit qu'elle est là-bas, l'autre religion, elle dit qu'elle est là-bas. La vérité ! Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En Ésaïe 65, nous voyons qu'il se présente comme le Dieu de vérité. Le Dieu de vérité, qui a donné des lois de vérité en Néhémie 9, 13. Il a donné des lois excellentes, des commandements de vérité. Non seulement dans sa personne, Dieu est le Dieu de vérité, il ne ment point, mais en plus, il communique la vérité, il fait connaître la vérité, il nous fait entendre des lois de vérité. Et nous lisons Jean 17 à cet égard, Évangile de Jean, chapitre 17, la deuxième partie du verset, nous lirons la première à une autre occasion. Ta parole est la vérité. Jean 17, ta parole est la vérité. La parole de Dieu est vérité. Amen. Et Dieu nous parle pour que nous puissions connaître la vérité. Non pas un peu relative, celle-ci, peut-être c'est celle-là. Non. Seigneur nous dit, vous êtes dans les ténèbres, vous avez besoin de la lumière, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans le mensonge. Moi, je vous ai créé, moi, je suis celui de qui tout tire son origine. Je suis le Dieu créateur, je suis le Dieu de vérité. Et je vous parle pour vous faire passer du mensonge à la vérité, à la connaissance de la vérité. Alors nous lisons cette deuxième épître de Jean. L'ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon les commandements que nous avons reçus du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas « Salut !» Car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Vous avez entendu résonner ce mot « vérité ». Et dans cet épître, nous voyons qu'il y a un combat contre la vérité. Jean se réjouit de ce que les enfants de Kyria, il en a rencontré qui marchent dans la vérité. Mais il dit, il y a plusieurs séducteurs qui viennent et qui ne prêche pas la doctrine de Christ, qui n'apporte pas la doctrine de Christ et qui trouble les gens et qui vole la vérité de l'évangile. Alors, Jean a beaucoup écrit à ce sujet. Prenons son évangile et regardons au chapitre 8 ce qui fonde ce combat contre la vérité. Jean 8, verset 44. Il dit à certaines personnes qui s'opposent à ces paroles, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Oui, parce qu'ils veulent tuer Jésus. Oui, mais ça vient de votre père et votre père c'est le diable. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Il y a un combat contre la vérité. Et ce combat est animé par Satan, qui est le père du mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité, il n'y a pas de vérité en lui, parce que quand il ment, dit Jésus, il parle de sa propre, ça part de sa propre nature, de son propre fond, il est menteur, père du mensonge, et il s'oppose à la vérité. Frères et sœurs, sachons que Satan fera toujours en sorte de combattre la vérité. La vérité de la parole de Dieu, la vérité qui nous éclaire, la vérité qui nous libère, Satan s'y opposera toujours. Il ne nous laissera pas tranquille comme il ne laissait pas tranquille cette famille chez Kyria, où, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y avait des gens qui marchaient dans la vérité en Jésus-Christ et qui n'étaient plus captifs du mensonge, eh bien Satan se débrouille pour s'infiltrer, pour s'opposer à la vérité, pour nous reprendre au piège. Un combat contre la vérité se tient et Satan en est l'artisan, le maître d'œuvre. Alors oui, dans ce combat contre la vérité, en Romains 1, 25, on en arrive à des choses surprenantes. Romains 1, 25 déclare « Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. » Oui, les hommes qui s'opposent à la vérité réussissent à changer la vérité de Dieu en mensonge. Mais ça ne vous rappelle pas comment Satan a fait avec Ève? Dieu a dit des choses à Ève. Satan lui dit, oh, Dieu a-t-il vraiment dit, mais non, il n'a pas dit ça, parce qu'en fait, tu sais, non, il t'a menti. Il t'a menti parce qu'en fait, il ne voulait pas que tu touche l'arbre, parce qu'il savait que sinon, oh, ça te ferait tellement du bien, et il veut te priver du bien. Vous avez vu comment il a changé la vérité de Dieu en mensonge? La vérité de Dieu, c'était de dire à Ève, si tu touches, tu vas mourir, tu vas te détruire, tu vas t'abîmer, surtout ne touche pas, ça serait pour ta ruine. C'est ça la vérité. C'est comme si tu dis à un enfant, écoute, si tu touches, tu vois les deux fils électriques, tu les touches, tu vas déguster. C'est la vérité. Mais Satan, il arrive à changer la vérité de Dieu en mensonge. Il retourne la situation et nous fait croire que son mensonge, c'est la vérité. En 2 Timothée 3, 8, nous lisons qu'il y a des hommes qui s'opposent à la vérité. Il milite contre la vérité. Et Satan n'est pas quelqu'un de passif, il est quelqu'un d'actif qui combat, qui milite contre la vérité. Et nous voyons toujours en Romains 1, 18, comment la colère de Dieu, Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. On cache la vérité de Dieu, on la tient prisonnière, on ne veut pas qu'elle se propage, on ne veut pas qu'elle soit prêchée, on ne veut pas qu'elle soit proclamée, parce que la vérité de Dieu, elle libère les captifs. Amen. Et Satan ne veut pas. Il ne veut pas ça. Alors, il y a chez Kyria, des personnes que Jean a rencontrées et il dit j'étais fort réjoui de rencontrer, de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité. Ça veut dire quoi marcher dans la vérité? D'abord, c'est avoir entendu, d'après Éphésiens 1:3, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en elle vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est la parole de vérité qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, de l'enfer au ciel. Nous sommes sauvés. L'être humain est sauvé de ses péchés. Il est sauvé de la condamnation par la parole de la vérité. C'est la vérité entendue, crue et affirmée, la vérité de Dieu, qui fait qu'on devient un enfant de Dieu. Il y a un autre beau verset qui en parle, Jacques 1:18. Prenez Jacques 1:18. Hébreux, Jacques 1, verset 18. Il nous dit que tout ce qui est bon vient de Dieu. Au verset 17, il dit « Toute grâce, excellent, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. » Souvent, Satan veut nous tromper là-dessus, hein. Souvent, il veut nous dire « Non, 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 c'est moi qui vous donne des bonnes choses, etc. » Le Seigneur, lui, « Ouh là là, c'est très restrictif. C'est une vie austère. » Du mensonge. Toute chose excellente vient du Père des Lumières. Et que nous dit-il au verset 18 ? Il nous a engendré, c'est-à-dire fait naître. Hein, engendré, c'est fait naître un nouveau-né. Nous sommes des nouveaux-nés en Christ. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Par la parole de vérité. Amen. C'est la parole de vérité du Seigneur qui, lorsqu'elle résonne dans un cœur, lorsqu'elle est acceptée, lorsqu'elle est crue, lorsqu'on la saisit, eh bien, on est sauvé. Bien sûr, cette parole de vérité, elle rencontre l'amour de notre vérité pour être sauvé. Nous verrons tout à l'heure la vérité, elle se choisit. Marcher dans la vérité, c'est déjà être sauvé par Jésus-Christ parce que nous avons entendu sa parole de vérité. Mais ça ne s'arrête pas là. Marcher dans la vérité du péché, ça la vérité. Tout à l'heure, nous avons lu Jean 17:17. Ainsi, c'est Jésus qui dit « Sanctifie-les par ta vérité ». Ta parole est la vérité. Sanctifier, c'est-à-dire nettoyer, purifier. Nous avons des péchés et ce qui va nous nettoyer, nous sanctifier de ces péchés, c'est la vérité de Dieu qui rentre dans un cœur. Le Seigneur, par sa parole de vérité, va me montrer que peut-être telle réaction, telle attitude, telle pensée, telles actions, elles sont mauvaises, elles abîment les autres, elles m'abîment moi, elles ne me font pas du bien, contrairement à ce que je pourrais croire. Et sa parole de vérité me sanctifie, me nettoie. Nous le voyons également en Éphésiens 4:24. Éphésiens 4:24, il est dit dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Il dit « Revêtez-vous de l'homme nouveau, arrêtez avec le vieil homme, l'homme charnel, l'homme qui pêche, l'homme qui n'écoute que lui-même. Vous avez reçu en Christ un nouvel homme, une nouvelle nature, revêtez-vous de Christ selon une justice et une sainteté que produit la vérité. » La sainteté, elle est produite par la vérité. Mais ça ne s'arrête pas là, ça va encore plus loin. 1 Pierre 1, 22. Prenez ce passage important, 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ah, ce n'est pas juste la vérité de Dieu qui arrive dans un cœur toute seule là, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous nettoie. Comment est-ce qu'on purifie nos âmes ? En obéissant à la vérité. Il ne s'agit pas juste d'entendre la vérité de la parole de Dieu. Oui, j'ai entendu la parole de Dieu, j'ai entendu la vérité. Il dit, non, c'est pas comme ça que vous allez être sanctifié. C'est en obéissant à la vérité. Marcher dans la vérité, quand Jean dit, j'ai rencontré tes enfants qui marchent dans la vérité, ce sont des frères et des sœurs en Christ qui obéissent à la vérité de la parole de Dieu. Le Seigneur me parle, sa parole est vérité, et j'obéis à ce qu'il me dit. D'ailleurs, il dit, mais vous aimez Dieu ? Vous aimez Dieu ? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vous aimez Dieu ? Faites ce qu'il vous dit. Obéissez à la vérité. Marcher dans la vérité, c'est être libéré par la vérité. Ça s'appelle l'affranchissement. C'est lorsque Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. » Et parfois, nous voyons dans notre vie des comme si le péché était plus fort que nous, comme s'il y avait des domaines dans notre vie où on se sent prisonnier, l'apôtre Paul l'explique bien en Romains. Il y a des domaines où vraiment on a une faiblesse, on est comme prisonnier. Eh bien le Seigneur nous dit, moi je veux briser les chaînes qui t'emprisonnent. Et c'est la vérité qui t'affranchit. Est-ce que des fois on ne se sent pas comme dans une prison ? Coincé, comme on est coincé. C'est la vérité du Seigneur qui nous libère, qui nous rend réellement libres. Et lorsqu'on se trouve dans des situations un petit peu compliquées, comme on l'a chanté, sans ta lumière Seigneur, où irions-nous ? Que serions-nous ? Que décider ? Qui écouter ? Que décider ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir en moi-même et puis je vais trouver la solution. Non. Tu te sens coincé, tu te sens dans une impasse. Écoute la parole de la vérité et elle va t'affranchir, elle va te rendre libre. Marcher en vérité, c'est pas que ça encore. Marcher dans la vérité, c'est, selon Jean 4, 23, voici, l'heure vient, elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Marcher dans la vérité, c'est aussi adorer le Seigneur en vérité. Et moi, je pose la question. Tous les dimanches matins, quand nous sommes là au culte, on chante, on fait monter nos louanges au Seigneur par le chant, par la prière. Est-ce que nos cœurs sont vrais devant? Est-ce que ça vient de la vérité de nos cœurs ? Le Seigneur cherche des adorateurs qu'il adore en vérité. Oui, marcher dans la vérité, c'est aussi le Seigneur voit où j'en suis et la louange que je lui apporte, c'est pas une louange hypocrite, c'est pas juste des belles paroles, elle est vraiment en accord avec ce que je vis. Et si ce que je vis en ce moment est compliqué, eh bien, de mon cœur doit monter quelque chose qui soit en vérité. Si en ce moment je suis dans le combat, ma louange, elle doit être aussi en vérité. Et ne pas prétendre. Et souvent, on veut prétendre dans l'adoration, dans la louange. Seigneur nous demande d'être vrais Amen. Marcher dans la vérité, c'est aussi pratiquer la vérité pour se tenir solidement droit. C'est l'armure du chrétien. En Éphésiens 6, l'armure, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. La première, c'est quoi ? Ayez la vérité à vos reins pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà. Je mets la ceinture du soldat, cette ceinture qui fait que mon hernie discale, qui fait que mon lumbago, qui fait que tout ça. Non, non, c'est solide, bien droit. Si on veut marcher droit pour le Seigneur, on ne peut pas faire autrement que de marcher dans la vérité, d'être dans la vérité. On doit rejeter absolument tout mensonge. Ce qui nous fait tenir droit pour le Seigneur, c'est la vérité. La vérité de la parole de Dieu, la vérité de la doctrine, mais la vérité aussi dans nos vies. C'est pour ça que le chrétien dit la vérité. Éphésiens 4, 25, il dit que chacun parle selon la vérité à son prochain. Renoncez au mensonge, que chacun parle la vérité à son prochain. On dit la vérité. On ne trouve pas des détours, etc. Seigneur, il nous dit non. Quand on commence comme ça, parlez vrai. Arrêtez de cacher. Dire la vérité. Mais c'est aussi tout ce qui habite nos pensées. Marcher dans la vérité, c'est aussi, selon Philippiens 4:8, méditer la vérité. Le verset nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation, etc., soit l'objet de vos pensées. Mais il commence par tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Dans nos pensées, il y a un combat. Il y a des pensées mensongères qui nous viennent de notre éducation, qui nous viennent de notre culture, qui nous viennent de notre société, qui nous viennent de l'action de Satan directement. Et dans nos pensées, nous devons fermer la porte aux pensées fausses et donc destructrices. Et on les identifie grâce à la parole de Dieu. Parce que ta parole est la vérité. Et je me saisis des pensées vraies, de ce qui est vrai, et je le médite et je le repasse dans mes pensées. Et j'arrête de céder aux pensées fausses et mensongères. Peut-être une pensée, je ne sais pas, c'est tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras jamais, j'y arriverai jamais. De toute façon, ce n'est pas possible, j'y arriverai jamais. Mais c'est une pensée qui est fausse, puisque le Seigneur nous dit, au contraire, notre capacité vient de Dieu. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et il y a plein de pensées comme ça, qui sont dans notre tête. Marcher dans la vérité, c'est aussi apprendre dans notre esprit à faire de ce qui est vrai l'objet de nos pensées. On peut choisir quelles pensées on va cultiver, on va entourer. Des fois, on cultive des mauvaises pensées plutôt que de les chasser. Le Seigneur nous dit, faites le contraire. Une mauvaise pensée vient, elle vient, tu l'écartes. Par contre, tu vas cultiver les pensées de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est pur. Alors, nous avons vu un Dieu de vérité, mais un combat contre la vérité. Satan, il ne sera jamais passif. Pour nous empêcher de marcher dans la vérité. La vérité qui nous sauve, la vérité qui nous fait quitter le péché, la vérité qui nous libère de nos prisons, la vérité qui nous fait adorer le Seigneur, la vérité qui nous permet de marcher droit, la vérité qui nous permet d'avoir des pensées bien ajustées. Alors, en 1 Timothée 3,15, prenez-le, nous l'avons déjà lu, mais en 1 Timothée 3,15, il nous est dit quelque chose de fondamental. Il dit, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église est l'appui et la colonne de la vérité. Lorsque Paul parle à Timothée, Timothée est à Éphèse, et à Éphèse, il y a l'une des sept merveilles du monde antique. Vous avez entendu parler des sept merveilles de l'Antiquité. Et l'une de ces sept merveilles, c'est le temple de Diane. Et il est à Éphèse. Et ce temple de Diane, il est soutenu, donc c'est une merveille d'architecture, et il est soutenu par 157 colonnes. Et donc, quand il dit, vous savez, l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité, tout de suite, les Éphésiens, ils pensent à cette septième merveille du monde qu'on vient du bout du monde pour la voir. Mais c'est un temple dédié à quoi, le temple de Diane? Que soutiennent ces 157 colonnes? Elles soutiennent les mensonges de l'ennemi au travers d'un culte rendu à une déesse qui n'existe pas et qui les écarte de la vérité, n'est-ce pas? Voilà une architecture, un joyau, un monument élevé à la gloire de Satan avec 157 colonnes qui soutiennent le mensonge par lequel il perd les hommes. Il dit non, nous, c'est le contraire. L'Église, c'est l'Église, la colonne et le soutien de la vérité. Il y a un combat. Il dit d'abord, les pasteurs doivent prêcher la vérité de la parole et toute la vérité de la parole. En 2 Timothée 2,15, il dit, étudie-toi à te présenter comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Qui dispense droitement la parole de la vérité. En Galates 4,16, Paul dit même aux Galates, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? On n'aime pas toujours entendre la vérité. Des fois, le pasteur va dire des choses, des vérités de la parole, ça fait grincer un peu des dents, ça nous remet en question, et Paul le s'en rend compte, hein, aux Galates, il dit, alors je suis devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité. En Galates 2,5, voilà des personnes qui essayent dans l'Église de, au lieu que ce soit le salut par la foi en Jésus-Christ, ils essayent d'introduire le salut par les œuvres. Et en Galates 2,5, Paul dit, nous ne cédâmes pas, nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue. On ne se laisse pas faire. Il y a des gens qui veulent prêcher des fausses doctrines, changer l'Évangile. Non. On ne cède pas. On résiste pour que la vérité de l'Évangile soit maintenue. Et en 2 Corinthiens 4,2, il dit, nous n'altérons point la parole de Dieu, mais nous publions la vérité. Altérer la parole de Dieu, c'est alors la Bible, voilà, peut-être qu'en fait c'est pas tout à fait ça qu'elle voulait dire, tu comprends, et on commence, et à la fin on vous met une tête comme ça en changeant tout ce que la parole de Dieu a dit pour vous convaincre que par exemple prier Marie c'est tout à fait biblique ou que sais-je, et des tas de choses qui sont contraires à la vérité. Mais on tord la parole de Dieu, on l'altère. Et Paul dit non, on n'altère pas la parole de Dieu. L'Église, elle est la colonne de la vérité et les pasteurs doivent prêcher la vérité. Et ça, c'est important. Et en particulier, disait Martin Luther, donc le réformateur, prêcher pas juste la partie de la vérité divine qui est inoffensive pour la culture environnante. Ah, c'est sûr, il y a plein de vérités de la parole de Dieu, on peut les prêcher, ça ne gênera personne. Par exemple, aujourd'hui, si nous prêchons contre le racisme, ça fait partie de la parole de Dieu. Est-ce que le Seigneur est pour le racisme? Et la haine de l'étranger? Non! Mais aujourd'hui, dans notre culture d'aujourd'hui, si on prêche cette vérité, elle sera applaudie, elle sera accueillie, parce que notre société, actuellement, ce n'est pas son combat. Aujourd'hui, il est de bon ton de parler contre le racisme. Donc, une église qui va faire son cheval de bataille de la lutte contre le racisme, ici, eh bien, elle sera accueillie à bras ouverts et peut-être même elle recevra la Légion d'honneur du président, je ne sais pas, hein, mais vous voyez ce que je veux dire ? Très bien. Si vous prêchez contre la violence faite aux femmes aujourd'hui, et c'est très bien de le faire, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on va dans le sens de la société, ça ne gêne, ce n'est pas une vérité aujourd'hui qui est un domaine où Satan attaque. Tout le monde va nous dire, allez super votre église, vous... on va dans le même sens, on croit les mêmes choses et on construit pareil. Si on prêche les vérités de la parole concernant le soutien, la solidarité, le soutien aux personnes les plus pauvres, les plus faibles, les plus démunis, mais ça c'est une vérité divine, bon ben si on prêche ça ici, on sera applaudi, parce que ça va dans la culture environnante. Alors attention, hein, c'est pas partout pareil dans le monde. Allez en Inde et prêchez le soutien aux pauvres, aux démunis, alors qu'en Inde c'est le système des castes et que les intouchables, ils peuvent crever dans la rue et mourir à côté, on ne les secourra pas. Alors oui, là-bas en Inde, pour l'Église, prêcher l'amour d'autrui pour l'aider et ne pas laisser dans la pauvreté, la misère, etc. Là-bas, c'est un vrai combat. Ici, nous, ça va dans le sens de la culture environnante. Alors, est-ce qu'on est une Église qui ne prêche que les vérités divines qui sont applaudies par notre environnement ? Martin Luther disait non. Je dois prêcher aussi les vérités de la parole de Dieu qui correspondent actuellement à là où Satan est en train d'attaquer. C'est là où Satan en ce moment attaque, là où ça dérange, là où ça fait grincer des dents. Je dois aussi prêcher ces vérités là de la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas seulement les pasteurs. Nous voyons dans cette lettre adressée à une famille que nous devons être aussi une maison. Chaque foyer doit être une maison pour la vérité. Ici, nous ne sommes pas 157, mais j'aimerais voir 157 chrétiens dans cette église où chacun est un pilier, une colonne pour la vérité. Amen. Alors, peut-être ici, nous sommes 40. Eh bien, que nous soyons 40 colonnes pour la vérité. Peut-être nous avons, 10, 12, 15 foyers. Que nous soyons 10, 12, 15 foyers, comme celui de Kyria, pour la vérité. Parce que Jean a bien conscience que là, les ennemis et Satan qui essayent d'attaquer la vérité, hein, ben peut-être il n'arrive pas à le faire directement au pupitre de l'Église. Alors comment ils ont fait les séducteurs là ? Ben ils visitent les familles. Là ils sont allés chez Kyria et chez sa famille. Et ils s'installent et dans les familles, ils parlent et ils prêchent des choses contraires à la doctrine du Seigneur. Et c'est pour ça que chaque famille doit être une maison pour la vérité. Le Seigneur nous a fait un beau cadeau. Il nous a promis que nous pouvons être dirigés dans la vérité. Tout à l'heure, on a cité Pilate qui disait, oh, ben, qu'est-ce que la vérité ? Est-ce qu'on peut connaître la vérité ? Oui. D'ailleurs, un verset de la Bible nous dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Oui, en Jean 16, 13, Jean chapitre 16, verset 13. Il est parlé du Saint-Esprit. Et il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Regardez, c'est pas souvent qu'on appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Regardez ce que notre deuxième épître de Jean nous dit. Elle nous dit au verset 2. Regardez. Il dit, ce n'est pas moi seul, verset 1, qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Verset 2, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Tiens, pourquoi dit-il que la vérité demeure, c'est-à-dire a fait son habitation en nous, et qu'elle sera avec nous pour l'éternité? Mais parce que celui qui nous conduit dans toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. Dans sa première épître, il avait dit, vous avez tous reçu l'onction, et cette onction est véritable, et elle vous fait connaître la vérité. Oui, le Saint-Esprit, après avoir cru à la parole de la vérité, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit, nous dirige dans la vérité. C'était la prière du psalmiste quand il disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Et au psaume 25,5, il dit « Conduis-moi dans ta vérité. » On peut le prendre, psaume 25, psaume 25, verset 5. Ce n'était pas le même psaume, j'ai confondu deux psaumes. Et il dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Est-ce que le Seigneur peut nous conduire dans sa vérité, nous instruire? Oui, parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. En psaume 119,30, le psalmiste dit, je choisis la voie de la vérité. Je choisis la voie de la vérité. Parce que c'est un piège qui est tendu aux chrétiens. Daniel 9,13 dit, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. En Jérémie 5,1, il n'y a personne qui s'attache à la vérité. En 2 Timothée 4,4, ils détourneront l'oreille de la vérité. Et effectivement, le combat contre la vérité, il est amené jusque dans le cœur du chrétien pour ne pas écouter la vérité, pour s'opposer à la vérité. Prenez avec moi un cas très intéressant, c'est les chrétiens à qui Jacques s'adresse. En Jacques 3, il y a des disputes, il y a des querelles, ça ne va pas du tout dans l'Église. Et il y en a qui se prétendent sages et intelligents, dirigés par le Saint-Esprit. Alors, Jacques leur dit, « Lequel d'entre vous est sage, intelligent, qui monte ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Puis il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Qu'est-ce qui se passait chez ces chrétiens? ils étaient persuadés d'être dans la sagesse qui vient d'en haut. Ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et en fait, ils avaient réussi à se persuader eux-mêmes qu'ils tenaient leur raisonnement et leur sagesse de la sagesse d'en haut. Et Jacques leur dit, là maintenant, il faut arrêter. Vous allez juste ouvrir les yeux. Ce n'est pas la sagesse d'en haut qui vous anime. Ce n'est pas la sagesse d'en haut qui vous fait prendre des décisions. Ce n'est pas la sagesse d'en haut qui vous fait prendre des positions. C'est une sagesse d'en bas qui est terrestre, qui est charnelle. D'ailleurs, la preuve, ce sont vos disputes, vos esprits querelleurs, le désordre, etc. Ça n'a rien à voir avec la sagesse d'en haut. Et il leur dit, ne mentez pas contre la vérité. Et là, c'est quelque chose qui se passe très souvent chez le chrétien. On peut être capable de mentir contre la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître la vérité, oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au Saint-Esprit ? On peut attrister le Saint-Esprit. On peut éteindre le Saint-Esprit. Il dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. On peut s'opposer au Saint-Esprit. On peut résister au Saint-Esprit qui veut nous conduire dans la vérité. Est-ce que ça ne nous arrive pas que quelque part, au fond de nous-mêmes, on sait les choses parce que le Saint-Esprit nous dit qu'on n'est pas sur la bonne voie. Mais on se justifie, on a des raisonnements, on fait taire le Saint-Esprit. Et on continue à prétendre vivre une vie chrétienne. Comment ? Ben comme ce à qui Jacques il écrit, en mentant contre la vérité. Et on peut se poser des questions, depuis combien de temps est-ce que je mens contre la vérité ? Cette vérité que le Saint-Esprit, en fait, ça fait longtemps qu'il essaye de me souffler, je lui dis de se taire, et puis voilà, j'ai bien réussi, maintenant il se tait. Mais en fait, je mens contre la vérité. C'est un piège. Et nous avons besoin de prendre garde à marcher vraiment dans la vérité et à ne pas réussir à nous persuader spirituellement d'être dans le juste alors qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est de mentir contre la vérité. Souvent, c'est évident pour tous les gens autour, sauf pour nous-mêmes. Il y a un piège. Regardez ce verset de 2 Timothée 2:25. Nous terminerons par là. 2 Timothée 2:25, il s'agit ici de l'attitude que les pasteurs doivent avoir à l'égard des chrétiens qui se sont laissés prendre au piège du diable. 2 Timothée 2:25. À propos du serviteur de Dieu, il dit qu'il ne doit pas avoir querelle, être affable, propre à enseigner, doué de patience. Et verset 25, il doit redresser avec douceur les adversaires. Là, il s'agit de redresser. C'est-à-dire vraiment, ce ne sont pas des non-chrétiens qui s'opposent à la vérité parce que la vérité n'a jamais habité leur cœur. Non, non, c'est vraiment des vrais chrétiens, mais qui se sont laissés détourner de la vérité. Il dit, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenu à leur bon sens, vous avez vu cette expression, revenu à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Oui. Il est possible qu'un chrétien mente contre la vérité en éteignant, en attristant le Saint-Esprit. Et puis après, il est là dans l'Église et il conteste ceci, il conteste cela. C'est un adversaire, en fait, dans l'Église auquel le pasteur fait face tout le temps. Et il dit qu'il doit le redresser avec douceur en espérant que le Seigneur lui donne la repentance. Il faut une repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour qu'on revienne à notre bon sens et qu'on se dégage du piège dans lequel Satan a réussi à nous emparer et nous soumettre à sa volonté. Le chrétien peut devenir la marionnette de Satan, lorsqu'il délaisse la vérité, lorsqu'il se détourne de la vérité, et après, tous les raisonnements, toutes les explications que vous pouvez lui soumettre, il n'est plus dans son bon sens. Il est pris, Satan s'est emparé de lui. Ce que vous pouvez dire, ça ne sert à rien ou à pas grand-chose en apparence. Et vraiment, il faut prier pour que le Seigneur donne la repentance. Ne nous laissons pas aller jusque-là. Ça sert à quoi? Quel dommage! Ne perdons pas notre récompense. Le Seigneur dit que dans cette épître, ce qui unit les chrétiens, c'est la vérité et l'amour. Mais Jean fait très attention, il dit que j'aime dans la vérité. Que j'aime dans la vérité. Kyria, au nom de l'amour, peut-être, elle avait minimisé la vérité en accueillant peut-être des personnes qui apportaient des fausses doctrines. Mais l'hospitalité bienveillante, on accueille quand même les gens, etc. Jean, il dit, non, moi, tes enfants que j'aime dans la vérité. On ne doit jamais minimiser la vérité au nom de l'amour. Ah oui, mais on ne va pas dire la vérité comme ça. Cette vérité de la parole de Dieu, elle est vraie, c'est vrai, mais attends, on ne peut quand même pas... Il faut plus d'amour, il faut plus de... On ne va pas tout dire, on va enrober quoi? Quand on commence à enrober la vérité de Dieu, au nom de l'amour, on n'est plus dans le vrai amour. Le vrai amour, il dit la vérité. C'est l'enjeu de l'amour, être un amour dans la vérité. Il y a la réciproque, hein? En Éphésiens 4:15, c'est le contraire. Il dit professant la vérité dans l'amour. Il y a les deux. L'amour sans la vérité, c'est rien. Mais la vérité qui est dite sans amour, c'est un problème aussi. Et il y a les deux. On doit être avec un amour qui est dans la vérité, qui ne minimise pas la vérité, et en même temps, on dit la vérité avec amour. Et nous avons un magnifique exemple, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Qu'est-ce que Jean nous dit? La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. On peut être placé face à la vérité. C'est dur de faire face à la vérité quand cette vérité, sur soi-même, elle n'est pas belle à voir. Mais c'est possible quand, avec la vérité, il y a la grâce. Et le Seigneur est venu aussi avec sa grâce. La vérité et la grâce. Alors, terminons en disant, soyons une maison pour la vérité. L'Église et les familles et les foyers et chaque membre est une colonne pour la vérité. Allons vers la vérité. La vérité, elle est dans la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Scrutons la parole, étudions la parole. Remplissons-nous d'elle. Laissons le Saint-Esprit nous conduire dans la vérité. Ne résistons pas, ne nous opposons pas à sa voix jusqu'au point où on finit par mentir contre la vérité, être persuadé. Et on se fait prendre au piège du diable. Il dit, prenez garde. Voilà, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Frères et sœurs, si nous voulons recevoir une pleine récompense de la part du Seigneur et pas perdre finalement l'énergie et l'effort spirituel qu'on peut faire, eh bien prenons garde pour marcher et continuer de marcher dans la vérité sans nous laisser détourner, sans faire place à ceux qui s'opposent à la vérité. On se souvient que Satan est actif et il a des tas de stratégies pour essayer de nous faire déchoir, détourner de la vérité. Soyons vigilants là-dessus. Prions. Seigneur, on te remercie parce que ta vérité nous libère. Ta vérité nous purifie, ta vérité nous sauve, ta vérité nous conduit, nous éclaire, nous dirige. Merci. Nous voulons être, Seigneur, de tes enfants qui se tiennent droit et marchent droit parce qu'ils ont mis la vérité pour ceinture à leur rein. Aide-nous à cela. Rends-nous vigilants et que nous puissions dire la vérité les uns aux autres, ne pas vivre dans le mensonge, cacher les choses, mais être vrai. Au nom de Jésus. Amen.